Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Kaohanui et bienvenue dans cette 43e émission.
Édition 2023.
Comme signalé la dernière fois, aujourd'hui, nous faisons une courte pause historique pour écouter William Leblanc. Ce jeune marin français arrivé à Nukuhiva en 1842 avec l'amiral du Petit Ouar. Dans cet épisode, pas d'étrangers Hao'e, que des Enana de Nukuhiva. William Leblanc a raconté ses mémoires dans un livre intitulé « Souvenirs d'un vieux normand », mais certains spécialistes des marquises, tels le professeur Sachs, mettent en doute l'authenticité de certains de ses récits. J'ai cependant décidé de vous faire partager celui que nous allons entendre, car il nous éclaire sur un pan caché des traditions anciennes.
Les souvenirs d'un vieux normand de William Leblanc ont d'abord été publiés chez Plon en France en 1895, puis réédités par les éditions Au Vent des Îles en 2006 et à nouveau édités par les mêmes éditions en 2020 sous le nouveau titre de « Récits de ma vie d'aventure et de navigation ».
Après avoir demandé l'autorisation de s'installer sur place, William Leblanc vit à Hiko'ei avec la fille d'un chef nommé Veahitu ou Veahitu et fait de nombreuses visites sur la côte nord de l'île. Il se lie d'amitié avec de nombreux chefs et participe à une bataille non loin de la mer, au cours de laquelle un autre chef de ses amis se noie. Du côté ennemi, un chef aussi est capturé, blessé et six guerriers sont faits prisonniers avec lui. Peut-être la bataille s'est-elle tenue à l'entrée de la baie de Haka'ehu ou de Ha'akapa. William Leblanc nous raconte ici les préparatifs d'une grande fête Koika, organisé pour célébrer tour à tour la victoire, la capture d'un chef qu'on allait manger, les funérailles d'un autre chef mort noyé au combat et l'avènement d'un nouveau chef. Le tout sur une durée de 4 jours. Les tribus concernées sont des tribus du Nord, mais ils n'en donnent pas les noms authentiques. En tout cas, cela concerne les vallées de Haka'ehu, Ha'akapa et Hatiheu. Premier jour. Autour du Tohua,
une des places publiques du village,
on a élevé une trentaine de belles cases bien construites. Elles sont ornées d'objets pris à l'ennemi. Et tous les motifs de tatouage de l'île sont représentés sur des planches suspendues aux parois. Premier détail intéressant, quand un chef ennemi est fait prisonnier, on le dépouille de ses ornements et on reproduit son tatouage sur un morceau de bois imitant la forme humaine. Cette statue est ensuite entreposée en souvenir dans une des cases du Tohua. Devant la case des chefs se dressent trois tikis représentant des dieux et Tuua. Ce sont peut-être les trois divinités protectrices des Haka'iki. Cette case est aussi la case destinée aux opérations de tatouage des chefs et des grands guerriers. Son ameublement consiste en deux grands tambours pahu et un grand tronc d'arbre couché et une natte. Cette case est tapu pour le reste des naturels. Toutes les autres sont publiques. Naturel, c'est le gentil nom que donne Leblanc aux Enana. Vers le centre du Tohua se trouvent les fours destinés à faire rôtir les prisonniers qui doivent être sacrifiés et mangés au cours des fêtes célébrant les victoires. Aux autres fêtes, on mange toujours des cochons qui sont toujours rôtis entiers, quelque gros qu'ils soient. Le chef prisonnier est gardé dans une case et les six autres prisonniers demeurent attachés au pied des cocotiers près du Tohua. Lorsque des individus passent près d'eux, ils leur crachent au visage et les insultent en grimaçant. Les prisonniers refusent toute nourriture. Leblanc pense qu'ils ne veulent pas se laisser engraisser par ceux qui vont ensuite les manger. Au soir du premier jour, avant le coucher du soleil, les guerriers revêtus de leurs costumes de guerre se réunissent sur la place Tohua avec les serviteurs des grands prêtres Tau'a, qu'on nomme les Ou'u, et après une harangue du Taoua, entame une danse infernale. On fait alors lever les prisonniers et on les attache debout à 6 cocotiers, la poitrine contre l'arbre, les bras entourant le tronc. Les guerriers dansent en cercle sur le Tohua, en resserrant les lignes. Quand ils sont à portée des prisonniers, ils les frappent au visage, leur tirent les cheveux et leur cognent la tête contre le tronc, faisant jaillir le sang. On rappellera ici, c'est moi qui le dis, que si les victimes consacrées aux dieux étaient exécutées avec respect, les ennemis, au contraire, concentraient la colère des vainqueurs qui déchaînaient sur eux leur vengeance. Quand tous les guerriers ont défilé devant les prisonniers, le Taoua remonte dans une case et à son signal, la danse reprend. À chaque tour exécuté, le Taoua désigne une victime et un des serviteurs Ou-Ou, après avoir fait tournoyer son casse-tête Ou-Ou, frappe la victime d'un coup si violent entre les deux épaules qu'un flot de sang jaillit des narines, des yeux et des oreilles et que la victime meurt sur le coup. La danse repart pour un autre tour jusqu'au dernier prisonnier qui est le chef blessé qu'on avait conduit jusque-là. Après coup, les victimes sont scalpées. Comme nous l'avons déjà vu, le cuir chevelu est détaché du crâne des victimes et les chefs secondaires apportent les chevelures au Taoua. Après les exécutions, les guerriers dépècent les corps et enveloppent les morceaux dans des feuilles de bananier ou de hao, de hibiscus des mers. Puis, ils forment un tas de ces paquets qu'ils placent sur un paille-paille près des fours. Les restes du chef sont mis à part, voilà encore de précieux détails. Une fois les fours prêts, on les remplit des paquets de chair humaine que l'on recouvre de feuilles de bananier. Par-dessus, on empile les cailloux rougis qu'on avait mis de côté, puis le tout est recouvert de terre, bien battu de manière à ce que la chaleur reste concentrée. D'énormes faisceaux de roseaux ont été allumés autour du Tohua. Vers minuit, on désigne des gardiens pour veiller sur les fours. Un peu à l'écart, les femmes préparent de la popoï dans de grandes jattes en bois, qu'on nomme des ko'oka. Pendant le reste de la nuit, les gens dansent en battant des mains ou en exécutant des danses plus expressives. D'autres jouent de la flûte nasale, pu'ihu, d'autres enfin exécutent des papaki avec leurs bâtonnets frappés en mesure,
aussi appelés akao tukituki,
comme ceux exposés au musée du Quai Branly à Paris.
Ça, c'est moi qui le rajoute.
Deuxième jour, dès l'aube, arrivent des invités d'autres vallées. On éteint les feux. Dès que tous les chefs sont présents, ils se dirigent vers la caste à Apu, où le kava est préparé, et où sont apportés les restes du chef exécuté, les fours ayant été découverts. Les restes des autres prisonniers sont étalés sur le paille-paille, tout proche à disposition du reste des hommes. Les femmes ne pourront revenir sur le Tohua qu'après le festin. Le chef de la tribu Ami, qui s'était noyé pendant les combats, n'avait pas de fils. Après s'être consultés les uns les autres, et à la suite de longs discours, les autres chefs choisissent un nouveau chef dont le nom est divulgué à la foule rassemblée et qui l'acclame. Sur cet épisode, les spécialistes s'interrogent. Quant à moi, qui ai la chance de vivre aux Marquises depuis longtemps, je pense que le pragmatisme marquisien ne pourrait pas ici nous donner un meilleur exemple de son efficacité. Devant une situation nouvelle, on réfléchit et l'on prend la décision la plus adaptée afin de ne pas laisser la tribu sans chef.
Pendant que l'on danse et chante
en l'honneur du nouveau chef, les jattes de Popoy viennent rejoindre les restes humains sur la terrasse de la Castapu. Au signal du grand prêtre Taua, les danses cessent, les femmes vont se ranger à l'extrémité du tohu ou du poisson cru et des mets rôtis, des fruits de l'arbre à pain rôtis, les attendent. Le festin cannibale commence pour les hommes. William Leblanc nous dit qu'il n'y participe pas, on veut bien le croire. Après les exécutions, le grand prêtre Taua remet au nouveau chef les scalpes des prisonniers de la veille. Il place le scalp du chef ennemi et des deux autres victimes à sa ceinture. Deux viennent orner ses poignets et deux autres ses chevilles. Encore un détail très précieux. Tout le monde se lance alors dans une danse accompagnée de papaki, c'est-à-dire de bois frappés les uns contre les autres, on en a déjà parlé. Après quoi, le calme revient et deux jeunes garçons exécutent une danse qui tourne à la lascivité quand ils sont rejoints par deux jeunes filles. Les filles portent des couronnes de tiare, tous les quatre portent un simple ceinturon de tapa, un hami tout simple, et leur corps est enduit d'huile de coco teintée de eka, le fameux eka moa dont nous avons beaucoup parlé.
Et qui est du parfum de curcuma cuit au four. Comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, les adolescents étaient très souvent sollicités pour leur grâce à exécuter en public des danses profanes.
Avant le coucher du soleil, les divertissements cessent sur ordre du Taua et la foule des Kikino se retire. Restent les chefs et les guerriers pour lesquels on a préparé le kava.
Cette boisson calmante réservée aux hommes Taapu, préparée à partir des racines mâchées du poivrier Piper metisticum.
On allume aussi des pipes que des jeunes filles, Pahoe, font passer de main en main, chacun en aspirant deux ou trois bouffées. Dès que la pipe passe au voisin, une autre Pahoe, jeune fille, lui présente un bol fait d'une demi-noix de coco, ipuehi, remplie à ras-bord de kava. Après avoir bu, d'une traite, il prend une seconde pipe présentée par une autre jeune fille, en tire quelques bouffées, la remet à la jeune fille, tandis qu'une autre lui présente un nouveau bol de kava. Après avoir bu et fumé, on va se coucher sur des nattes disposées dans les cases. Au bout de 15 minutes, tous sont plongés dans un sommeil léthargique. Les jeunes filles quittent le lieu pour rejoindre les autres. Que de détails étonnants et émouvants! Troisième jour, le premier jour des funérailles du chef. Les dormeurs et les buveurs de kava se réveillent peu à peu, et tous se dirigent en silence vers la rivière toute proche. Arrivés au bord de l'eau, ils se débarrassent de leur ceinturon de tapa et se plongent dans l'eau fraîche à plusieurs reprises. Puis ils remontent sur les roches plates qui garnissent le bord et restent accroupis sur les talons, s'enveloppant les genoux de leurs bras. Ils sont rejoints par la troupe des chefs et des taua qui accomplissent le même cérémonial, toujours en silence. Un silence sinistre et lugubre, interrompu seulement par le chant des coqs et le battement de leurs ailes. Au premier rayon du soleil, le Taua pousse un grand « Kaoha ! »
Alors tout le monde se lève.
Et le cri se répète de personne à personne, de case à case jusqu'au fond de la vallée. Les cris des cochons et des chiens se mêlent à ceux des humains. Puis tous les guerriers retournent dans la Castapu, où ils déjeunent de poissons crus, de mets rôtis et de noix de coco. William Leblanc écrit qu'on ne mange jamais de popoy après avoir bu du kava, car le mélange des deux rend malade. Je suis sûr que certains marquisiens de nos jours le savent très bien, même si plus personne ne boit de kava. Encore un détail précieux qui n'a pas pu être inventé et qu'il serait bien difficile de vérifier aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de kava, en tout cas à Nukuhiva. Puis tous se rendent à la case du chef où est exposé le cadavre du chef noyé. On dresse deux grandes palmes de cocotier formant brancard pour transporter le corps dans une autre case. Là, on le revêt de son costume de guerre et de ses plus beaux ornements et on le place dans une pirogue funéraire dans laquelle il est maintenu assis au moyen de deux longues perches placées verticalement de chaque côté et réunies par de petites traverses en forme d'échelon auxquelles le mort a le dos appuyé comme dans un fauteuil. Le cercueil repose sur des morceaux de bois élevés à 2 pieds du sol environ. Les jambes du défunt sont recouvertes d'une pièce de tapa de houté, le mûrier à papier. Au-dessus de sa tête sont placées 16 armes et une branche de kava. L'intérieur de la case est rempli d'herbes odoriférantes et tapissée de tapin blanc en signe de deuil. Voilà des détails en conformité avec ce qu'avait vu Porter à Pacquiao en 1813, soit 30 ans auparavant. Et c'est aussi conforme à ce que racontera Radiguet
en 1844
pour la mort de l'oncle de Temoana, Niehito. Les cérémonies commencent accompagnées de chants, de papaki et de tambour parou de 4 à 5 pieds de haut, entre 1,20 m et 1,50 m. Entrent alors les femmes, drapées de grandes capes kahu de tapa blanc. Elles déposent à la tête du cercueil d'autres pièces de tapa destinées à envelopper le défunt, puis elles se rassemblent autour de lui. Deux parents proches chassent les mouches tandis que des pleureuses poussent des gémissements à l'arrivée de chaque visiteur. Elles font des grimaces et des contorsions, en ouvrant les bras et en faisant trembler leurs mains et leur corps. Puis la veuve et les parents proches se lacèrent la peau des bras, des cuisses, des seins et des reins avec des coquilles de nacre. Les incisions sont peu profondes,
mais assez pour faire couler le sang dont le rôle
est de guérir de la fièvre causée par la douleur de la perte d'un défunt. Ce sont là encore des détails conformes à tout ce que nous avons pu lire sur le sujet et tout ce que nous pourrons lire encore. Cette cérémonie dure toute la journée. Au coucher du soleil, on bande les yeux du mort et on l'allonge
dans sa pirogue funéraire.
Les hommes font alors un grand repas où les restes des victimes de la veille sont dévorés jusqu'au dernier vestige. Les os, nettoyés scrupuleusement, sont distribués en partie aux chefs invités qui les emporteront en souvenir. Ils serviront à fabriquer des pipes, des sifflets et divers instruments, outils et bijoux. Dans la case mortuaire, on allume les baguettes de noix de Bankul Ama et deux torches de roseau, puis on commence les préparatifs du kava comme la veille. 2 heures plus tard, la vallée retombe dans le plus grand silence. Quatrième jour de la cérémonie et deuxième jour des cérémonies de deuil. Le lendemain matin, après le bain, les invités repartent dans leur vallée et les cérémonies continuent. Pendant les 10 jours suivants, on relève le mort le matin et on le rallonge le soir. Au bout de 10 jours, seuls les chefs et la famille veillent sur le cadavre. Mais le soir, la population se réunit devant la case au moment où l'on couche le mort. Et ce, pendant une lunaison complète au terme de laquelle le cadavre est emmailloté avec une partie du tapa apporté par les femmes. L'autre partie sert à couvrir le cercueil qui est placé sur 2 fourches de bois fichées en terre au sommet du tertre royal. Le tout est abrité sous un petit hangar supporté par 4 colonnes formées chacune d'un faisceau de longs bâtons écorcés pour paraître blancs, donc tapu. Ces colonnes dépassent d'une grande hauteur la toiture du hangar. Au sommet des faisceaux sont attachées des bandelettes de tapa blanc en signe de deuil. Les arbres avoisinants sont également garnis de tapa blanc, prévenant ainsi les passants qu'ils approchent d'un lieu tapu. Tout autour de la toiture sont suspendues des petites calebasses, semblables à des balances. C'est dans ces vases que 40 jours après la mise en bière, la famille vient matin et soir déposer la nourriture destinée aux défunts. Il arrive que, devant la sépulture, soit planté un tiki en bois supportant une énorme pierre sur la tête, en signe de profonde douleur. Chers amis, nous voici arrivés au terme de cet épisode de La Vie Ancestrale. La prochaine fois, nous reprendrons la suite chronologique de l'histoire de la Terre des Hommes avec l'année 1843, qui verra l'intensification logique de l'installation française dans l'archipel, ainsi que le deuxième passage de l'écrivain américain Herman Melville. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook TEO et sur mon site internet teo.com. Et merci au groupe de danse de Nukuhiva pour les extraits de son Hakamanu et de son Rikuhi présentés lors du Festival des Arts des îles Marquises de 2011 à Nukuhiva. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai, au Oahu. No te ati e nada.